Bonjour Rémi, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui sur les ondes de Radio Vassivière pour parler de ton livre « L'image retrouvée ».
Bonjour Dunia, et je te remercie de me recevoir. Merci à Radio Vassivière.
Alors, j'ai une première question. Est-ce qu'il faut te présenter en tant que Rémi ou Camille Jean ?
Ah, aujourd'hui, les deux. Hein. En fait, Camille Jean. Pourquoi Camille Jean ? Parce que il y a eu plusieurs raisons. C'est une histoire familiale qui est tirée d'un récit familial. J'avais juste envie de ne pas blesser la famille qui est encore ici. Et c'est pas juste une histoire qui m'appartient, c'est aussi la leur. Et du coup, voilà. Ne pas exposer leur histoire à tout le monde, voilà, pour pas qu'ils se reconnaissent, ou enfin s'ils se reconnaissent, en tout cas les voisins, les amis ne les reconnaîtront pas. Et puis la deuxième raison, c'était aussi parce que j'aurais pas le temps de vivre 1000 vies, j'aimerais en vivre des tas, et le temps presse et le temps passe, et je me suis dit que en inventant des personnages comme ça, comme Camille Jean, et ben je pouvais lui faire vivre cette vie-là d'auteur. donc voilà, c'est un peu schizophrène, hein, c'est sûr, mais voilà, Camille Jean, il va exister pour ce roman. Si j'ai la chance d'en publier un autre, peut-être que j'inventerai un autre personnage, voilà, un autre romancier. Puis j'avais envie de dire aussi Camille Jean qui n'existe pas ou qui existe à travers ce roman, puisqu'il est l'auteur de ce roman. J'avais envie de dire aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs que à partir du moment où il y a un acte de création, il y a mensonge. À partir du moment où il y a fiction ou même documentaire, il y a mensonge, et que la fiction ment, voilà, et la création ment. Elle est là aussi pour ça, pour nous amener vers ça, pour nous raconter des histoires. Le cinéma ment, et que quand ils vont chercher des informations, il faut toujours multiplier les sources pour les recouper et ensuite se faire sa propre opinion.
Et donc l'image retrouvée de Camille Jean, c'est une histoire de secrets, de mensonges. C'est une petite histoire qui raconte la grande histoire. C'est votre histoire et l'histoire de votre famille, l'histoire de votre mère qui est pied noir et qui quitte l'Algérie dans la vingtaine après l'indépendance, qui toute sa vie regardera derrière elle plein de nostalgie et regrettera son pays. Et vous, vous venez questionner une fois adulte ses origines. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Oui, ben en fait, Dunia, tu as tout dit du livre. Enfin, tout, mais c'est très bien. En fait, c'est ça. Comment dire, moi, je me suis posé la question de la transmission à mes enfants. Surtout la transmission inconsciente. La consciente, elle est facile. Celle qui nous échappe un peu moins. Ma mère, oui, comme tu le dis, Dunia, elle était pied noir. Elle a vécu la guerre d'Algérie, elle avait 20 ans. Elle a fait un déni de grossesse. Elle a eu un enfant mort-né qui a vécu quelques minutes, mon frère. Donc c'est l'histoire que tu racontes, l'histoire du livre. Et pourtant, elle est restée silencieuse. Toute sa vie, elle a passé sa vie tournée vers l'Algérie avec cette nostalgie. Et elle ne nous a pas transmis cette histoire-là. Et moi, je voyais que je faisais un peu la même chose avec ma propre famille, avec mes enfants. Et mes sœurs et moi, on a vécu ce silence-là. On l'a... Oui, quand je voyais que moi je faisais la même chose sur cette histoire d'Algérie avec que ma mère l'a faite sur nous, c'est-à-dire rester silencieux, j'ai eu envie d'écrire ce livre pour transmettre cette histoire-là. C'est un fardeau qui n'appartient pas à mes enfants, c'est le mien, même si il fait part de leur histoire, c'est aussi une partie de leur histoire. J'avais pas envie que ça leur échappe. En fait, le silence, mes sœurs et moi, nous a un peu, entre guillemets, évidemment, brisé. Hein. Ça nous a fait échapper en quelque sorte à cette histoire. Et pourtant, il fallait, à mon sens, qu'on la prenne à bras le corps. En fait, quand le silence s'installe dans une famille, il me semble, ensuite vient le mensonge, ensuite vient le déni. C'est ce qui nous est arrivé, c'est ce qui est arrivé à ma mère avec cette histoire de frère mort. Qui a vécu quelques minutes, et quand le silence s'installe comme ça, ensuite les traumatismes peuvent se cristalliser et se transmettre de génération en génération. Du coup, j'avais pas du tout envie de ça, évidemment, et j'avais envie de mettre des mots. Aujourd'hui, dans les familles, il me semble que la parole circule beaucoup, beaucoup mieux, beaucoup plus qu'à l'époque. Et c'est une arme, en fait, la parole. Et cette arme, il faut s'en servir. Donc la parole, il faut s'en servir, la prendre et aborder tous les grands sujets d'aujourd'hui, que sont la place de la femme dans la société, le patriarcat, la colonisation. Voilà.
Et pourquoi tu penses que toi, tu as été motivé par cette curiosité ? Dans le livre, on sent bien cette différence entre toi et tes sœurs. Toi qui, sur un souvenir un peu flou, jeune, tu vas être motivé et chercher réponse à partir de souvenirs. C'est en fait, à la fin, ça va devenir presque un instinct puisque tu es plus sûr de ce souvenir. Qu'est-ce qui fait que toi, tu y vas, toi, tu y crois ?
Écoute, je ne sais pas. Peut-être la seule explication, c'est peut-être parce que c'est un garçon. Je pose la question dans le livre, hein, d'ailleurs, si ça avait été une fille, est-ce que mes sœurs se seraient emparées de cette histoire-là ? Mais c'est un garçon. Et moi, j'étais le fils préféré, en fait. Ma sœur, après cet enfant, ma sœur aînée, ma sœur... elle s'est prise jusqu'à ce qu'elle ait ses règles, ses premières règles, elle s'est prise pour un garçon. Elle a été impactée directement. Elle a tenté de se faire aimer par ma mère. Et moi, quand je suis arrivé, je n'avais rien à faire pour me faire aimer. J'étais le fils préféré, vraiment proprement dit. Enfin, à proprement parler, c'était ça. Et je pense que ça vient de là. Et aussi parce que Philippe, mon ami dont je parle dans le roman, qui n'a pas eu la chance que j'ai eue, qui est mort à 20 ans, c'était un garçon aussi. C'était pas une amie fille, c'était un garçon. Et on nous appelait les frères jumeaux j'ai toujours associé cet ami-là à ce frère disparu. D'ailleurs, dans le roman, j'en parle j'essaye, en fait, je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment mon frère, qui n'a vécu que quelques minutes, comment se souvenir d'un être qui n'a pas existé ? Il n'a pas de carnet de santé, il n'a pas de sépulture, il n'a pas d'acte de naissance, il n'a pas d'image, pas de photo, il n'a pas de visage. Et Philippe de Carnin, cet ami, on nous appelait toujours les frères jumeaux, et cette association d'images et d'idées m'a toujours traversé. Et j'associais mon frère à ce frère jumeau, Philippe, justement, ça me permet aussi de refaire vivre un peu Philippe, qui est mort trop jeune. Et ça me permet de donner une existence à mon frère, qui n'a vécu que quelques temps. Il a été là une minute, mais il a été là.
Comment vous expliquez l'oubli de votre tante?
Ah, je ne me l'explique pas. Je ne suis pas dans sa tête. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'elle sait de cette histoire proprement dite. Je ne sais pas ce qu'elle en a gardé. Je ne sais pas pourquoi elle a oublié. Moi-même, je le dis aussi un peu dans le roman, j'avais oublié énormément de choses. Et la photo de mon ami que j'ai retrouvée lors d'un déménagement m'a rappelé à tous ses souvenirs. Comment la mémoire fonctionne, je n'en sais rien. Je tente une explication avec un ami qui est neurologue, mais je ne sais pas si elle est satisfaisante. En tout cas, c'est une explication scientifique, mais ça dépasse la science, évidemment. Je ne sais pas pourquoi elle a oublié ça. Je ne sais pas si c'est moi qui, au détour d'une conversation d'adulte, en ai fait un souvenir. Et je l'ai cristallisé sur un moment de discussion peut-être tout simple entre ma mère et ma tante. Je reste persuadé qu'il existait ce moment-là. Je l'ai dans ma tête et voilà. Mais je m'explique pas pourquoi elle s'en souvient pas ou pourquoi. Peut-être qu'elle va s'en souvenir. Un jour, je lui offrirai le livre.
Elle l'a pas encore lu, donc.
Non, je ne pense pas.
Et écrire sur sa famille, c'est quelque chose de compliqué, surtout quand ça vient déterrer des histoires aussi profondes. À qui d'autre dans votre famille ? Est-ce que vos sœurs l'ont lu ?
Non. Non, non, Camille Jean, ça ne leur parle pas. Elles ne savent pas qui c'est. Et peut-être que si elles lisent la quatrième de couverture avec l'histoire, la guerre d'Algérie et l'histoire familiale, peut-être que c'est un roman sur lequel elles s'arrêteraient en librairie. Je ne sais pas.
Et l'Algérie, vous y êtes retournée. Est-ce que aujourd'hui, vous vous sentez proche de l'Algérie ?
Ah, ça, c'est une grande question. Je me suis toujours senti proche. En tout cas, ce pays m'est familier. Cette culpabilité que j'ai eue, que j'ai encore, je crois, un peu, mais le roman m'a aidé à l'atténuer un peu. En fait, je crois que nous, on se sent tous redevables. J'ai l'impression qu'on doit tous se sentir redevables de ce qui s'est passé en Algérie, la colonisation. Moi, je suis pas historien. J'ai juste appris d'abord dans les livres. Et la guerre d'Algérie n'en fait pas beaucoup partie dans les livres d'histoire, malheureusement. C'est, je crois, une après-midi d'enseignement, en fait, dans l'éducation nationale, si je ne me trompe pas. Mais on devrait tous se pencher sur cette histoire, que ce soit la guerre d'Algérie ou d'autres événements. Oui, enfin, cette culpabilité, oui, elle m'accompagne encore, parce que tant que le gouvernement français, tant que nous, Français, on n'aura pas, en tant que même homme blanc, en fait, et cette suprématie blanche qu'on exerce encore aujourd'hui partout dans le monde, c'est hallucinant qu'on en soit encore là en l'an 2000. Avant, on disait, ça y est, on est en l'an 2000, tout va changer. On est en l'an 2023 et sur ces questions-là, on n'a pas beaucoup évolué. Tant que le gouvernement français n'aura pas demandé le pardon à l'Algérie pour ce qui s'est passé, pour tout ça, pour cette guerre, cette guerre sans nom, comme on l'appelait avant, et tant qu'elle n'attend pas le pardon de l'Algérie, parce que c'est bien beau de demander le pardon, mais il faut attendre qu'on nous l'accorde, on n'aura pas réglé cette histoire-là.
L'Algérie, mon beau pays, je t'aimerai jusqu'à la mort. Loin de toi, moi je vieillis. Rien n'empêche que je t'adore, avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors. Jamais je ne t'oublierai, quel que soit mon triste.
Quand vous allez en Algérie, il y a beaucoup d'images qui vous viennent. Ça donne l'impression que vous visitez l'Algérie à travers les yeux de votre mère, ou qu'il y a un film déjà tracé et que vous suivez ce film. Comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé là-bas? Vous avez choisi un itinéraire en rapport avec votre histoire?
Alors Dounia, je vais vous faire une confidence. Je ne suis jamais allé en Algérie. Mais en fait, on me pose souvent cette question et j'y réponds tout simplement. Comment ça s'est passé? C'est qu'en fait, c'est un livre. Et c'est un objet de création. Moi, la littérature m'a permis de faire ce voyage-là. Bien sûr, je ne raconte pas n'importe quoi et je me suis appuyé sur des voyages que ma mère elle-même avait fait et que mes oncles ont fait, mes oncles et tantes ont fait. Ils ont des récits de ces voyages et ils ont tenté de retourner, en tout cas ma mère, de retourner là où elle avait enterré son enfant. Et de retourner bien sûr dans son village, Souma. La famille y est retournée très souvent. Ils ont écrit, ils ont noirci des pages. Et de ces pages-là, j'en ai fait ma propre histoire. Je ne vais pas sur les bords de leur histoire, de leurs histoires. Tout le cheminement, il existe. C'est eux qui l'ont fait. Je m'en suis inspiré. Ils empruntent vraiment ces routes-là. Ils vont vraiment à Souma. Ils retournent vraiment dans la Casbah. Ils empruntent ces rues-là, la rue d'Isli. Et je me suis imaginé moi le faire et j'ai pas eu encore ni le temps, ni peut-être le courage de le faire. Parce que je me sens pas légitime d'aller dans ce pays-là pour l'instant. Je m'y sens c'est peut-être idiot, mais je m'y sens encore en tant que colon. Je m'y sentirai encore en tant que colon. Et lorsque je serai prêt, j'y retournerai, c'est certain. Ouais. Mais c'est une fiction. Voilà, c'est une fiction. Et je me suis même permis, effectivement, de m'approprier le guide, le monsieur qui m'accompagne dans le film, et son papa. Parce qu'ils existent vraiment. Ils ont accompagné mes oncles et mes tantes. Et c'est leurs propres paroles qui sont retranscrites, parce que mes oncles et mes tantes ont tenté de demander le pardon en y retournant aussi, enfin à leur manière. Et le père du guide ne comprenait, et il était, Il était proche de ma famille à l'époque. Il travaillait dans la ferme de mon grand-père. Mais le guide, non. Il ne comprenait pas cette démarche-là. Mais je me suis mis à la place de mes oncles et mes tantes. Mais c'est la force de la littérature. En fait, voilà.
Mais oui, parce qu'il y a ce dialogue où, où vous les faites réellement parler et ils vous répondent avec ces intentions que vous venez de nous dire. D'accord.
Et ce dialogue existait. Comme, comme le chemin, comme le retour en Algérie. Ils y sont retournés 4 fois. Et ils ont écrit beaucoup, beaucoup sur ces voyages-là. Alors, vous me direz, l'histoire du bateau n'existe pas non plus.
J'allais vous en parler.
La projection dans le ventre du bateau n'existe pas non plus, mais le film existe. Mon oncle a fait ça. Et je les en remercie parce que ça m'a donné matière à écriture, évidemment. Et après, le travail de l'écrivain, c'est de mettre en relation, de mettre en lien tous ces éléments pour en faire une histoire et pour sans trahir la réalité. Et voilà.
Parce que sur ce bateau, il y a une installation, même une performance qui invite les voyageurs. Et vous donnez encore une fois la parole à des personnages inventés et qui viennent témoigner de des personnages algériens, algériennes, qui viennent témoigner de leur rapport à la colonisation.
Oui, oui, ces personnages, alors ils sont inventés, puis en même temps, pas tout à fait, parce que je vous dis, dans ces récits, il y a eu des rencontres, et le film existe vraiment. Mon père avait vraiment filmé Alger dans les années 80, c'est un film Super 8. Et j'ai imaginé cette projection, ces retours, effectivement, de comment aujourd'hui, que ce soit des touristes ou des gens qui reviennent vivre là-bas ou qui font des allers-retours entre la France et l'Algérie, comment ils ressentent aujourd'hui la France et cette histoire de guerre.
En exil dès mon jeune âge, j'ai préparé mes affaires pour mon premier voyage, m'exiler au-delà des mers. Je revois d'ici mon village et tout ce qui me sent très cher.
Dans votre récit, il y a un autre moment où vous donnez la parole à quelqu'un qui n'a pas pu la prendre, votre mère, où elle raconte son déni de grossesse, où elle parle de l'Algérie. Et d'ailleurs, elle écrit de Nantes. Pourquoi de Nantes ?
En fait, ma mère a eu la volonté à un moment donné de raconter cette histoire-là. Même si elle ne nous l'a pas racontée et transmise, elle l'a transmise à un psychothérapeute, à une psychothérapeute qui faisait partie de la famille. En faisant ça, c'est peut-être un acte manqué. Elle s'est dit, si cette histoire, je la donne à un psychothérapeute, je la révèle à un psychothérapeute qui n'appartient pas à la famille, peut-être que mes enfants, ma famille ne la sauront jamais. Du coup, en allant voir quelqu'un de la famille, elle s'était sûrement dit, un jour, ça transpercera les mailles et ça viendra jusqu'aux oreilles de mes enfants. Et bien, simplement, elle a raconté cette histoire. Je pense qu'elle avait la volonté, effectivement, elle, de s'en sortir. Elle avait compris que ça l'empêchait certainement de vivre bien. Et elle voulait nous la transmettre, hein, tout simplement, je pense. Ouais. Ce déni, elle l'avait en elle, mais depuis bien longtemps, puisque je pense que ça vient de l'histoire familiale. Le déni était dans sa propre famille depuis longtemps. Elle l'a porté. Et ensuite, alors, il n'y a pas de déni de grossesse dans notre génération, mais il aurait pu y en avoir un, en fait. Et peut-être que ce livre, je l'espère, s'il dépasse le cadre, j'espère qu'il dépasse le cadre familial, le cadre intime, et qu'il parle à tout le monde et permettra à des femmes, à des hommes, à des enfants, de se dire que le mensonge, non, dans une famille, le déni, non, et justement d'apporter un peu de lumière sur ce qu'est le déni de grossesse. Ensuite, la psychothérapeute qui fait partie de la famille, qui a accueilli ma mère avec son histoire, s'est intéressée beaucoup au nid de grossesse et en a écrit beaucoup de livres.
Et pourquoi ça a été écrit de Nantes alors, cette lettre ? Pourquoi vous avez choisi
Pardon,
ça ?
Pardon, effectivement, j'ai pas répondu à ça. Parce que les entretiens se sont déroulés à Nantes, tout simplement.
D'accord.
Et que cette psychothérapeute habitait Nantes à l'époque.
Vous venez appeler des auteurs au début de chaque chapitre. Au début du témoignage, il n'y a rien en nous, du bruit, du vent, du sang et la poussière partout. Et par exemple, celle-ci, qui est juste au-dessus des témoignages de votre mère, il n'y a pas d'auteur au chapitre Le Témoignage.
En fait, ce sont des phrases que j'ai inventées. Hein. Et au départ, j'avais même inventé des auteurs et des autrices pour ces phrases-là, que je voulais remercier en fin d'ouvrage. Puis finalement, je ne l'ai pas fait, sous les conseils de mon éditrice. Non, mais après, on devient schizophrène. Non, mais c'est vrai, il faut que j'arrête avec ça. Mais ça m'amusait et ça, c'était grisant à la fois de donner vie à des personnages qui n'existent pas. Voilà, ces auteurs-là qui auraient écrit ces textes-là. Puis après, j'ai dit non, Camille Jean, ça suffit. Voilà. Mais ces phrases-là se retrouvent dans un prochain recueil de nouvelles que j'espère éditer, où on les retrouve et où j'en attribue la paternité justement à ces auteurs et ces autrices qui existeront, je l'espère, mais qui pour l'instant, non, ne sont pas là.
Vous faites aussi référence à l'astronomie dans votre livre. Vous dites que c'est vos enfants qui vous initient. Est-ce que c'est de la fiction, là, encore, ou est-ce que...
Non, ça, c'est vrai, ouais.
D'accord.
Ils m'ont offert un jour un télescope, et ensemble, on a été voir les planètes du système solaire. On n'a pas encore été voir le tréfonds de l'univers, ce qu'on peut faire avec d'autres télescopes plus performants, mais oui, non, c'est eux qui m'ont initié. On se retrouvait sur cette terrasse, et on parlait du temps qui passe, de l'histoire, de notre histoire familiale. Et c'est pour ça que je l'associe à un moment donné à ça. Ça me faisait penser, ça nous a fait penser, parce que je leur en ai parlé, bien sûr, à ce beau film de... ça y est, son nom m'échappe, mais de Patricio Guzman, Nostalgie de la lumière, qui raconte ces femmes dans le Chili qui sont encore à la recherche dans le désert d'Atacama des restes de leurs époux, de leurs fils. Elles expliquaient qu'en fouillant la Terre, elles allaient chercher le passé. Et en même temps, les astronomes dans le désert, sur le grand observatoire d'Atacama, regardent l'univers et vont aussi dans le passé. Associer l'histoire de l'univers, ces astronautes qui partent à la conquête de l'univers... c'était une façon de parler du passé, évidemment, de la guerre d'Algérie, et parce que c'est une forme de colonisation aussi que je ne comprends pas. En fait, tu sais, après, c'est aussi une question de mémoire. Quand tu parles du passé et quand tu regardes les étoiles ou que tu fouilles, tu fais des fouilles archéologiques ou que tu vas dans les grottes et que tu vois ces peintures rupestres, pour moi, c'est vraiment la question de l'oubli et de la mémoire. En fait, comment il faut... Si on oublie, le pire peut revenir. Et moi, je le dis toujours à mes enfants, se tourner vers le passé, c'est un peu regarder la mémoire comme un chemin devant soi. Il faut toujours avoir en tête que le passé nous accompagne. Il ne faut pas être nostalgique de ce passé-là, mais c'est forcément une arme. Nos erreurs sont une arme pour construire un avenir meilleur.
L'Algérie, mon beau pays, je t'aimerai jusqu'à la mort. Loin de toi, moi je vieillis. Rien n'empêche que je t'adore, avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors. Jamais je ne t'oublierai. Quel que soit...
Merci Rémi. Camille Jean. Merci Camille Jean. Pour ce beau récit de mémoire. Et...
Moi, je voulais juste en profiter. Je vous remercie Radio Vassivière, Dounia, tout le monde, pour m'avoir reçu, m'avoir donné ce petit temps, ce grand temps de parole. Et j'en profite pour remercier la famille, toute la famille, parce que c'est là que j'ai puisé la matière à ce livre. Ma mère, évidemment, parce que sans son histoire incroyable, je n'aurais pas jamais pu l'écrire. Et puis mes éditeurs, parce que si on a ce livre entre nos mains aujourd'hui, c'est grâce à eux, à leur regard, à leur confiance. Et puis aussi, je les salue parce qu'ils ont une détermination incroyable à faire vivre la culture au travers du livre sur notre territoire. Voilà, c'est Laurent Piollet et Colette Abatte. des éditions Abad et Piolet.
Merci Camille Jean, Rémi, pour ce livre L'image retrouvée, à retrouver aux éditions Abad et Piolet. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt sur Radio Massivière.
Cette nuit d'orage, entouré de mon père et de ma mère, en exil de mon jeune âge, j'ai préparé mes affaires pour mon premier voyage, m'exiler au-delà des mers. Je revois d'ici mon village et tous ceux qui me sont très chers. Pour moi, ce paysage est le préféré de la terre.